Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Vincent Prémollet de Villers.
Bonjour
bienvenue.
Catherine.
Bonjour. Et bonjour
Olivier.
Tout le monde.
Oui, c'est Mediapolis avec, comme toujours, la reine Catherine. L'émission est réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet. Et un fidèle qui vient aussi souvent, pas aussi souvent que je le souhaite, mais qui quand même vient assez régulièrement à Mediapolis, Vincent Trémollet de Villers.
Avec un plaisir toujours renouvelé.
Et qui est directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et vous dirigez un ouvrage collectif, un livre-chapitre, j'ai appris qu'on disait ça.
Oui.
Qui s'appelle « Éloge de la politique, les grandes œuvres de Platon à Solzhenitsyn ». J'ai repéré deux bizarreries. La première, c'est que, à part l'introduction, vous n'avez commenté, vous n'avez choisi aucune de ces grandes figures évoquées.
Non, j'ai établi le sommaire, j'ai choisi les auteurs.
Oui, non, mais je ne sais pas. J'ai
rédigé la préface, mais je n'ai pas écrit le chapitre. J'aurais aimé, mais malheureusement, les journées sont longues.
Et alors, la deuxième chose qui fait que j'ai été très heureux de ne pas avoir été sollicité par vous. C'est qu'il y a une partie des auteurs qui ont le droit à la couverture du livre, la vraie, ce qu'on appelle dans le jargon la couverture 1, et une autre qui sont que en couverture 2. Alors ça, j'ai trouvé ça... Moi, je serais très vexé si j'étais que au dos du livre, et je pense qu'il fallait les mettre tous ou aucun en première page.
Ça a été une décision extraordinairement compliquée, je ne vais pas vous faire rentrer dans cette histoire.
Ouais. Mmh.
Ça a été un choix éditorial parce qu'on a un des auteurs extrêmement prestigieux. Il y a Nicolas Bavrez, il y a François Sureau, il y a Mathieu Bock-Côté, il y a Chantal Delsol.
Et voilà, là, vous en citez qui sont en page 1, justement.
Mais il y en a aussi Salamito, Charles Jégu, qui sont... Bon voilà, le livre est de toute façon très intéressant.
Non, j'en doute pas, mais je voulais faire cette petite remarque de, pas de média politique, mais de média édition, si on veut.
Et, ben, écoute...
Et je tiens à ajouter en revanche que votre introduction, c'est plus qu'une préface, est absolument magnifique. Et je vais juste en lire un passage tellement j'ai trouvé ça bien. Au fond, nous ne trouvons plus les mots. Ils sont tous à notre disposition, mais nous ne parvenons plus à les agencer pour nous relier au texte qui s'écrit depuis des millénaires. Et alors, un peu plus loin, vous dites, donc, cette longue phrase où se répondent le père et le fils, la guerre et la paix, l'amour, l'amitié, les amis, les bêtes, les rivières et les arbres, les mers et les étoiles, la sève et les tombeaux, la cité. Tout cela subsiste, mais les liens se distendent. Les morceaux du miroir brillent sur le sol, mais leur reflet est fragile. Il faudra tout recoller. Est-ce pourtant le silence qui a succédé à la sociabilité ? Il n'y a plus de silence. Le bavardage contemporain nous casse les oreilles du petit matin jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le bruit du monde ne s'éteint plus. Même quand vous n'entendez plus rien, le murmure numérique continue son babil sur téléphone. Le monologue des algorithmes nous alerte sans cesse. Ces artifices ne compensent plus nos solitudes, ils les renforcent. Le flux nous emporte comme l'eau d'un torrent. Le flux nous emporte comme l'eau d'un torrent.
C'est magnifique.
C'est beau, hein ?
Très beau.
C'est à la fois profond et formidablement bien écrit.
Bah écoutez, moi, ce que j'ai voulu faire, vous savez, quand j'ai 45 ans, donc il y a un moment au milieu de sa vie, on sent ce à quoi on est attaché et ce qu'on voudrait transmettre. Et je trouvais que la dégradation, on va certainement en parler en parlant de Biden et Trump, du débat public, était quelque chose d'absolument désolant. Et même, il y avait une espèce d'angoisse qui m'étreignait de l'impossibilité de vivre encore ce qui fait la vie de l'esprit, c'est-à-dire une conversation civique avec de franches oppositions, mais une possibilité de parler tous la même langue. Et c'était l'objet de ce livre, c'est pour ça que nous avons décidé de le faire. C'est une entreprise modeste, mais je pense maintenant qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui acceptent et qui veulent défendre cette possibilité d'un esprit public qui ne soit pas entaché et dégradé ni par la vulgarité, ni par une brutalité qui transforme le débat en combat et la conversation en guerre civile des idées.
Voilà, ni par ça. Le sectarisme, voyez-vous, ça me frappe. Moi, je suis très heureux parce que je pense que Mediapolis est encore un espace de discussion libre et honnête, mais je suis très surpris quand je vois le nombre des réactions sur les réseaux sociaux qui disent soit « Heureusement qu'il y a Catherine Ney, vous n'êtes qu'une ordure gauchiste » ou bien celles qui me disent « Mais comment vous pouvez faire une émission avec cette femme tellement à droite ?» Et je me dis « Mais c'est invraisemblable à quel point le sectarisme est en train d'envahir les esprits. »
Et moi, je ne vous dis pas ce qu'on me dit à moi. Comment tu peux travailler avec un type pareil aussi à gauche Et moi, j'ai dit que tu es charmant. Bon. Que vous êtes charmant, pardon.
Oui, oui.
Mais je pense qu'on est revenu au temps des causes parfaites. Et le problème des causes parfaites, c'est que ceux qui les défendent n'écoutent pas l'argument de ceux qui les remettent en cause. Et donc le doute a disparu de la conversation. Et quand le doute disparaît de la conversation, elle devient très très compliquée.
La dernière phrase que j'ai aimée dans le même sens, de Marc Bloch, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, probablement, parce que je crois que c'est dans le livre que je l'ai trouvé. Dans un texte, je crois que c'est dans le texte d'Eugène Bastier sur Simone Veil. Pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. C'est magnifique aussi ça. Bah ici, on essaye de renfermer le plus de tendresse possible, mais la tendresse n'est pas exactement ce qui a caractérisé le débat Trump-Biden. Écoutez comment il a été évoqué par l'ami Canteloup sur Europe 1.
Allez, on va revenir sur le débat entre Donald Trump et Joe Biden, débat qui a été un véritable pugilat entre les deux candidats, âgés de 74 et 77 ans. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'une experte souhaite livrer son analyse sur notre antenne. Allô ? Allô, bonjour madame, vous êtes experte en politique américaine, c'est ça ? Allô ?
Oui, ah, je suis en ligne, pardon,
maman.
Oui, c'est Christiane.
Christiane ? Ah bon ?
Non, je ne suis pas experte en politique américaine, je suis experte en bagarre de vieux.
Alors, comment vous l'avez trouvé ce débat, hein ? Les deux candidats ont été odieux, non ?
Oh non,
ah
non,
bon
non, non. Moi, j'ai trouvé M. Trump et M. Biden très courtois. Hein, mais... Non, ici, si vous saviez, on a bien pire, vous savez. Il faut savoir, par définition, un vieux, c'est méchant. Hein. Ah oui, ça insulte, ça mord. Bon, ça fait pas mal, parce qu'on ne sent que les gencives, mais ça mord.
On revient au débat, là. Mais qu'est-ce que vous en retenez, vous, Christiane ?
Oh, écoutez, quand vous regardez deux candidats américains, vous dites qu'il faut vraiment reposer la question cruciale de la fin de vie. Est-ce que c'est humain de laisser deux personnes de cet âge s'humilier comme ça en public ?
Vive les Américains, n'est-ce pas ? Vive Donald Trump !
J'ai Monsieur Le Pen qui commence à faire des siennes.
Vive les Trumpistes ! Vive les murs contre les chicanos !
Non, Monsieur Le Pen, arrête ! Oh, c'est terrible la sénilité.
Je vais poursuivre Canteloup en justice pour diffamation envers les vieux, hein, je vous préviens tout de suite. Non, mais c'était sa vision par la surveillante de l'EHPAD, n'est-ce pas, par la célèbre Christiane. Le débat lui-même, on va en parler dans un instant et on va commencer par vous en passer un des extraits les pires du point de vue politique, donc les meilleurs du point de vue médiatique, évidemment. À tout de suite.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Comme nous avons donc Vincent Trémollet de Villers qui est avec nous, comme quelques... Je ne sais pas si vous l'avez regardé le débat ?
J'ai regardé des extraits du débat, je ne l'ai pas regardé en entier.
Moi j'ai regardé en direct comme quelques centaines de milliers de personnes qui ont été les regarder sur les chaînes info en France. C'est quand même assez considérable.
C'est le poids de l'insomnie peut-être ?
Aucun insomnie, au contraire, mais je me suis couché un peu plus tôt et j'avais mis mon réveil, Catherine. Bon. Mais bon, ce n'est pas ça qui est intéressant. Écoutez-les.
The issue is the American people should speak.
Le sujet est que le peuple américain doit avoir la parole.
You're in voting now.
Vous devez voter, c'est le moment. Votez maintenant. Trump, allez-vous saquer la cour ? Il lui coupe la parole. Je ne vais pas répondre, lui dit Biden. Trump, pourquoi vous ne répondez pas ? Trump, la question c'est... Et lui... Will you shut up, man? Ce qu'on pourrait traduire par est-ce que tu vas la boucler, mec, hein, quelque chose comme
ferme-la.
Ça. Ferme-la. Oui, ferme-la, mais man, pris dans le sens quasiment mec hein, ferme-la, mec. Oui. Ouais. Hallucinant, non? Hallucinant.
Moi, je vous le dis, j'ai vu par extrait, j'ai lu la presse américaine. Après, il y a un mot qui est sorti, chez beaucoup d'éditorialistes, qui est celui de chaos. Je pense quand même que là, on a eu les trois éléments qui montrent une dégradation très très préoccupante du débat qui vient outre-Atlantique, hein, qui existe aussi malheureusement en France. D'abord, l'impossibilité de communiquer, donc le débat transformé en combat. Ensuite, la vulgarité dans la forme quand même. Alors les Américains ne sont pas les Français, donc il y a toujours eu des interpellations, des possibilités d'interjection. Mais là, si vous voulez, on a l'impression de trouver quelque chose qui serait de l'ordre du talk show. Et puis enfin, quelque chose que j'ai trouvé vaguement ridicule, qui est cette démonstration de virilité entre l'un et l'autre, pour montrer, si je voulais être plus prosaïque, qui a la plus grosse. Là, il y a quelque chose qui, franchement, est préoccupant. Hillary Clinton avait qualifié de déplorable les électeurs de Donald Trump en 2016. Ça lui avait coûté très cher. Là, je pense que le mot s'applique peut-être à ce débat. Et je crains que ces formes-là arrivent chez nous.
Impossibilité de communiquer, vulgarité, démonstration ridicule de virilité. Non seulement ça rime, mais ce sont les trois points principaux que Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, regrette dans ce débat. Et vous, Catherine, vous partagez ce jugement sévère ?
Évidemment. Et puis, non, mais sur la vulgarité, on ne s'attendait pas à un combat distingué avec Trump. Ça, c'est une évidence. Mais que Biden lui dise « ferme-la, mec », mais le traite de clown, et que l'autre lui dise que franchement, y a rien, qu'il le traite en traite de con, puisqu'il dit « il n'y a rien d'intelligent en vous », c'était quand même de très, très, très bas niveau. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on s'attendait vraiment à une explosion de Biden, et finalement, il a tenu le choc. Il a tenu le choc. Et il y a une petite... Et là, en ce moment, avec la maladie de Trump, qui va durer, qui va être hospitalisé, ça risque d'être peut-être le combat, c'est l'illustration de la fable, le lièvre et la tortue, parce que l'autre, il est parti à toute vitesse, il a fait campagne, Trump, et puis il a nié la dangerosité longtemps du virus, et voilà qu'il est à terre. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que les trois dirigeants qui n'ont pas su mesurer l'épidémie à sa juste valeur, qui est Boris Johnson, Bolsonaro et Trump, et qui ont dit « mais c'est pas grave, il faut serrer la main », tous les trois ont été contaminés, et donc sont des très mauvais exemples pour leur pays. Et c'est ça qui est intéressant.
Très, très juste, très juste. On va, puisque Vincent Trémollet l'évoquait tout à l'heure, on va, grâce à Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne, qui travaille pour nous, surveille les réseaux sociaux, là, elle nous a préparé une sorte de pot-pourri des réactions dans les médias américains. La question qu'il faudrait se poser est plutôt qui en a été le perdant, et la réponse consensuelle, dit-elle, des commentateurs et des journalistes, et le perdant, c'est le public américain. Écoutez cette réaction qu'elle a trouvée d'un présentateur de CNN.
That was a hot mess.
C'était un vrai foutoir.
Inside a dumpster fire.
Un incident d'ordure. Une catastrophe.
That was the worst debate I have ever seen. In fact, it wasn't even a debate. It was a disgrace.
Le pire débat que j'ai jamais vu, c'était même pas un débat, c'était une honte. Alors, ça, c'était Jake Tapper sur CNN. Mais il n'a pas été le seul à être violent dans ses propos. Écoutez Nicole Wallace, une journaliste de MSNBC.
This felt like an assault. It felt like an assault on our senses.
Une agression.
It felt like an assault on our presidential campaign
process. Une atteinte à tous nos sens, une atteinte au processus de campagne présidentielle.
Our politics, because that's what it was.
Et une atteinte à notre système politique. C'est ce que c'était. Autre exemple similaire, cette fois-ci, sur NBC News, c'est Chuck Todd.
It was a train wreck of the making of one person. I mean, we know
who did it. C'est une catastrophe et c'est la faute d'une seule personne. Nous savons qui.
And in some ways, it's the only way he knows what to do. He bulldozed over the moderator, bulldozed over Chris Wallace, bulldozed, and at times flustered Joe Biden.
Il détruisait au bulldozer les propos du modérateur Chris Wallace et énervait Joe Biden. Tous ces journalistes qui se navrent, ça dit tout du niveau du débat. Un dernier son qui illustre bien le désarroi, le sentiment d'une défaite. Ça fait 40 ans que je regarde les débats. J'en ai modéré. J'ai préparé des candidats. J'ai couvert les débats. Et celui-là a été le pire que j'ai vu de toute ma vie. Et c'était George Stephanopoulos sur la chaîne ABC.
Oui, la question, c'est est-ce que l'opinion américaine suit les médias, partage cette opinion de désastre, ou est-ce que le camp Trump reste toujours aussi solide, l'approuve, le soutient ? Est-ce que sa maladie fait qu'il va y avoir de la compassion pour lui ? Est-ce que c'est un avantage ou au contraire un gros inconvénient parce qu'il a toujours fait sa campagne sur sa santé inaltérable, il a toujours traité ses adversaires de mauviettes. C'était pareil avec Hillary Clinton, de endormi. Il disait de Jeff Bush qu'il n'avait pas de piles, il avait les piles à zéro. Donc, vous voyez, c'est une question en suspens.
Deux questions très importantes posées par Catherine Ney sur l'effet du débat auprès du peuple ou d'une partie du peuple américain et l'effet de la contamination et de l'hospitalisation de Donald Trump. Réponse dans 2 minutes par Vincent Trémollet de Villers.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Le seul avantage, parce qu'il n'y en a pas énormément pour l'auditeur de ces pauses, c'est que ça permet à l'invité quand on lui lance des questions, de réfléchir à ses réponses. Et Catherine Ney a posé deux questions à Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et directeur de l'ouvrage Éloge de la politique aux éditions Talendier. Deux questions. La première question était l'effet du débat sur le vote, et la seconde question était l'effet de la contamination et l'hospitalisation de Trump sur le vote.
Alors l'effet du débat sur le vote, les analystes, parce que moi je ne suis pas spécialiste de la société américaine, disent qu'il risque d'être marginal puisque les camps sont consolidés, ce qui est quand même un problème pour la société américaine. C'est-à-dire que Biden qui est favori, s'il gagne, le fait que Trump quitte la Maison Blanche ne transformera pas en profondeur la société et la fracture restera la même.
Vous avez raison, mais un match nul, ça veut dire victoire Biden puisque Trump est challenger.
Oui, mais hein, Trump n'a pas refait son retard et n'a pas... Voilà. À chaque fois qu'on prévoit que quelqu'un va exploser l'autre dans un débat, en général, en France ou aux États-Unis, ça ne se passe pas. Mais... Et la deuxième chose, c'est Bla plus média politique, puisque c'est le thème de cette émission. On critique à juste titre ce débat, on moque la campagne américaine, on est lassé des vulgarités de Trump, mais ils ont quand même une capacité dramaturgique extraordinaire. Et là, la rencontre de deux phénomènes médiatiques qui était parallèle, qui était cette campagne présidentielle et la pandémie qui n'en finit pas et qui se croise avec le protagoniste principal de cette histoire, il y a quelque chose quand même qui est inégalable dans la capacité de rebondissement que montre la démocratie américaine.
Mais est-ce que ce n'est pas sur le débat ?
Toutes les élections présidentielles en Amérique, en France, il y a toujours des surprises, il y a toujours un metteur en scène
avec
que la presse n'imaginait pas.
Mais si on reste sur le caractère extraordinaire du débat Trump-Biden, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de terrifiant pour le système médiatique dans le fait que tout le monde s'accorde pour dire que le niveau était consternant, et d'un point de vue médiatique, mais c'était super, quoi, c'était super, c'était, on lâchait pas, on regardait, on se disait jusqu'où ils vont aller. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce qui fait le buzz, le bruit, la passion médiatique, où plus c'est violent, plus c'est mauvais, meilleur c'est. Plus c'est mauvais, meilleur c'est.
Et là, vous vous dévoilez, non ?
Non, je ne parlais pas de moi, là.
Il y a eu une schizophrénie, mais si ça avait été très bon, peut-être il y aurait eu un public. Là, c'est la seule offre qu'on nous donne. Sur la vulgarité, je voudrais revenir sur un des éditorialistes qu'a choisi Alice Baudry, qui dit « on sait à qui la faute ». Et il est évident que Trump a banalisé et a fait de la vulgarité un élément de la vie politique au quotidien et de la brutalité. Mais Trump n'est pas né de façon spontanée. Trump est la némésis du politiquement correct américain qui était devenu fou et du mépris social exprimé notamment par Hillary Clinton quand elle parlait de déplorable. Et c'est pour ça que moi je partagerais les torts. C'est-à-dire qu'il est trop facile de considérer que Donald Trump serait une espèce de créature apparue de façon miraculeuse ou maléfique et que quand elle disparaîtra, les choses s'arrangeront. Non, il y a eu un moment où les démocrates ont oublié une partie de leur électorat. Je me souviens du livre de Thomas Frank « Quand les pauvres votent à droite », et où ils ont laissé une partie de la basse classe moyenne américaine blanche partir dans les bras du populisme. Ils ont, par le politiquement correct, interdit tous les gros mots, et un homme est apparu et a dit « je vais tous les prononcer ». Et il les a tous prononcés et il a gagné. Donc ça pose une question quand même sur la surveillance du langage, sur la surveillance de la parole. Je pense qu'il faut... Il faut analyser en profondeur ce phénomène et pas seulement se contenter de souligner la vulgarité de celui qui l'incarne. Et
à la base, il y a le manque de considération pour toute une partie de l'Amérique,
et
de la part
du
camp démocrate.
Fait que du coup, la vulgarité devient un atout. Et c'est pas que lui, les grands populistes, Salvini, c'est pareil, ils sont délibérément vulgaires.
Mais Finkielkraut a trouvé la formule liée à une bêtise élaborée. C'est ainsi qu'il définit le politiquement correct des universités américaines, qui souvent est devenu fou, a répondu une bêtise assumée. Et en fait, la vérité n'est pas le contraire de l'erreur. On ne raisonne pas par rapport à une erreur, on raisonne par rapport au réel. Et là, il n'y a plus de réel. C'est aussi ça qui est absent de cette
histoire. Si vous permettez, enfin, Catherine, moi, je veux bien que vous ne m'ayez pas posé la question, moi, je vais vous répondre sur ce que je pense.
Vous faites comme le général de Gaulle, vous posez toutes les questions. Oui.
Bon. La comparaison est plus élogieuse que ce qu'il y avait tout à l'heure. Non, qui est le vainqueur le plus probable de l'élection américaine, malgré tous ces rebondissements, et évidemment, ce n'est pas fini. De même qu'en 2016, je n'ai pas arrêté de penser et de dire que ce serait Trump contre tout ce que tout le monde disait.
J'en témoigne.
Là, je pense que c'est Biden. Et je pense qu'il y a une raison très, très simple et très, très forte. Je pense que depuis 2016 aux États-Unis, clairement, ça a commencé avant. Depuis 2012 en France, le vote contre est plus important que le vote pour. La question, c'est savoir quel est le vote contre le plus fort. Et que le vote contre Clinton était évidemment, si on se mettait dans la peau des électeurs américains, plus fort que le vote contre Trump, à la différence de la côte est et des Européens.
Elle a fait 3 millions de voix de plus que Trump,
oui,
néanmoins.
J'entends bien. Mais normalement, elle aurait dû le pulvériser complètement, si vous voulez, vu ce qu'il était excentrique. Bon. Et là, je pense que le vote contre Trump est plus fort. Et quelqu'un, un spécialiste américain, me l'a résumé par une raison très forte qui distingue complètement Biden de Clinton. C'est très difficile de détester Biden. C'est très difficile de détester Biden. Et ça, je pense que ça compte beaucoup. On aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, on va passer, après ce long détour, mais franchement, il n'y avait pas plus média politique que la politique américaine cette semaine. On va faire un petit passage par la pandémie. Mais bref, dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et qui dirige l'ouvrage Éloge de la politique aux éditions Taillandier. Alors, la pandémie, on a l'impression que des choses sont. On a l'impression d'une part qu'il y a un désaccord et de communication et sur le fond entre le ministre de la Santé qui est sécurité sanitaire à mort et le président de la République qui est d'une part préservant l'économie et d'autre part les Français commencent à en avoir marre. Vous voyez ça un peu comme ça, Catherine Ney?
Oui. Mais le ministre de la Santé, il est dans son rôle de protéger les Français. Et depuis tout cet été, il alertait d'ailleurs à Marseille en disant « Faites attention, il voyait les images de ces foules sans masque dans les bars. » Il s'est dit « Il va y avoir un problème. » Bon, et pour prendre des décisions, je crois qu'il y a eu un conflit un peu au sommet avec le ministre qui était très inquiet et le président qui ne voulait pas trop inquiéter parce que lui, il veut que l'économie reparte. Il veut que les Français qui ont économisé 100 milliards pendant le confinement dépensent pour que la machine reparte.
Oui,
c'est-à-dire qu'il ne faut pas sacrifier la santé et l'économie. Ouais, enfin, il ne faut pas choisir. Hein. Ce n'est pas le choix de Sophie, il faut que les deux marchent en même temps. Bon, et puis, c'est le Premier ministre qui a parlé à la place d'Olivier Véran il y a 15 jours pour dire que tout se prendrait à la décision entre les maires et les préfets. Et on a vu que l'État, dans ces cas, et d'ailleurs Olivier Véran l'a dit vendredi ou jeudi, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités.
Oui, maintenant donc, avec une correction, c'est qu'au moins ils discutent avant au lieu de discuter après. Vincent Trémollet.
Moi, il me semble que la politique a repris la main sur la science et sur les médecins, et c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que le Conseil scientifique et Olivier Véran sont là pour donner l'état des indicateurs, et Emmanuel Macron est là pour décider de ce qu'il faut faire selon ces indicateurs.
S'il vous entendez dur avec le directeur d'un ouvrage qui s'appelle Éloge de la politique.
Voilà. S'il a été dur avec Olivier Véran, c'est aussi qu'Olivier Véran a demandé de nouveaux efforts aux Français, alors que selon Emmanuel Macron, il n'avait pas réussi sur les tests à faire ce qu'il lui avait demandé. Donc il disait, vous ne pouvez pas faire payer votre échec à ceux qui n'ont rien demandé. Et je trouve que dans cette crise, Emmanuel Macron révèle quelque chose, souvent les hommes se révèlent dans les crises, d'extrêmement intéressant et de rassurant, c'est qu'il a le juste équilibre entre les nécessités sociales, économiques et je dirais même anthropologiques qui sont nécessaires. Au Québec, par exemple, aujourd'hui, on peut être puni si on invite un ami à dîner. Macron a le souci des libertés publiques sur les funérailles, sur la vie culturelle, sur les cultes, sur la vie privée. Et face à lui, il y avait quand même des scientifiques qui voulaient remettre en cause tout cela. Et il a retenu les leçons du confinement où il y a eu des choses très très moches qui se sont passées. Et je trouve que là, il fait comme il peut, mais l'équilibre est tenu.
Eh bien, vous voyez, c'est une émission libre avec des esprits libres puisque le directeur adjoint du Figaro, de la rédaction du Figaro, vient de donner pleinement raison à Emmanuel Macron, président de la République, lorsqu'il assume la suprématie du politique. Est-ce qu'il pense la même chose des déclarations d'Emmanuel Macron sur le séparatisme? Écoutez-en un extrait.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société, et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement, et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.
C'était donc vendredi 2 octobre sur Europe 1 qui était au Mureau aux Yvelines pour écouter et transmettre le discours du président de la République. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamique. Qu'en pense Vincent Trémollet de Villers? Qu'en pense Catherine Ney? Réponse dans deux minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Alors, attaquer le séparatisme islamiste. Enfin, les mots que vous et vos lecteurs attendaient, cher Vincent Trémollet de Villers.
Ben enfin, les mots qui avaient été décrits par des sociologues, des essayistes depuis 20 ans. 2001, les territoires perdus de la République. 2019, Bernard Rouget, les territoires conquis de l'islamisme. Et Emmanuel Macron a parlé de contre-société, c'était les mots d'Elisabeth Badinter il y a 5 ans. Donc oui, il a trouvé les mots justes. En 2018, le Figaro publiait un manifeste signé par 100 intellectuels ou politiques. Il y avait Kouchner, il y avait Kefelec, il y avait Pierre Nora, il y avait Bruckner, contre le séparatisme islamiste. Il s'appelait comme ça, il s'adressait au président de la République. Le lendemain, Benjamin Griveaux, qui était alors porte-parole du gouvernement, sur une radio concurrente, avait dit « Je n'aurais pas signé ce texte parce qu'il est stigmatisant ». Donc on voit, et le texte ressemble peu ou prou à ce qu'a dit le président de la République hier, on voit que le président de la République a évolué sur ce sujet et qu'il dit enfin publiquement des choses qui étaient sues discrètement, et c'est ça le plus important. François Hollande confiait à Gérard Davet et Fabrice Lhomme qu'il craignait une partition du territoire, mais ça il le disait discrètement à des journalistes. Gérard Collomb disait en quittant son ministère, nous étions côte à côte, nous allons finir face à face, mais c'était une formule un peu bizarre pour un ministre qui s'en allait. Là, le chef de l'État ne s'est pas dérobé. C'est une réalité préoccupante qui ne doit pas devenir obsédante, mais qui doit être absolument affrontée et décrite. Catherine, il l'a fait, c'est le début. Après, maintenant, Catherine, il va falloir...
Enfin, moi, ce qui est amusant, c'est qu'il dit le séparatisme parce qu'il y a un mot qui lui écorche la bouche, c'est le communautarisme. Or, le séparatisme, ça ne convient pas. C'est quand le séparatisme basque ou breton ou corse, c'est une revendication d'indépendance et d'autonomie. Sortir de l'État. Ce n'est pas du tout ce que revendiquent les islamistes. Tandis que le communautarisme, c'est quand une religion, une culture entend vivre selon ses propres règles, au détriment de l'intégration, pour à terme diviser la nation et pour prendre le contrôle des musulmans et peut-être plus tard le contrôle tout court d'un pays. C'est ça, la visée de l'islamisme radical. Hein. Bon. Donc là, pour la première fois, d'ailleurs, on a entendu le mot communautarisme. Voilà. Et c'est la première fois. C'est ça, la grande rupture dans le discours macronien, c'est que tout ce que vous dites, enfin, il a réagi. Et là, ça, c'est, il a réagi. Bon.
Alors, après, ce qui me frappe, moi, dans les réactions, c'est que, et que je trouve un peu insuffisant de part et d'autre, c'est que, dans le fond, la droite ne veut parler que de séparatisme islamiste. Ce que la gauche lui reproche d'être une stigmatisation, ce que je ne crois pas, je crois que c'est une réalité et qu'il faut la nommer. La gauche veut qu'on parle de séparatisme social, ce que la droite lui reproche en disant que c'est absolutoire, que ça justifierait l'islamisme. Et moi, il me semble qu'il y a fondamentalement le danger terroriste qui vient du séparatisme islamiste et qu'une des raisons qui font prospérer le séparatisme islamiste et le séparatisme social, qu'il faut aussi s'attaquer à deux. Alors bon, peu importe qu'on soit d'accord avec ce que je dis ou pas, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est un peu des automatismes de la réaction. Je ne parle pas du tout de vous, là. Oui, je parle des politiques, principalement. Mais ça... On pourrait dire à l'avance que les uns... Mais il n'a pas parlé du séparatisme des riches. Ça, c'est complètement con comme formule. Mais du séparatisme social. C'est complètement con. Ce n'est pas très aimable pour l'humanité qui a fait ça une là-dessus. Mais je trouve que ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les ghettos de pauvreté aussi.
Ça dépend ce qu'on appelle le séparatisme social. C'est-à-dire, si c'est la politique de la ville, on en a fait beaucoup et ça n'a pas été d'une très grande efficacité.
Donc il faut faire autrement.
Mais en revanche, si c'est le fait qu'un certain nombre d'enfants n'aient pas eu accès aux éléments qui permettent l'intégration quand, quand on est issu d'une population émigrée, et j'allais même dire l'affection pour le pays dans lequel on grandit, oui, ça peut être qu'il y a eu une défaillance de l'école, il y a eu une défaillance peut-être aussi de l'environnement culturel. Je pense qu'il y a eu une trop grande contrition de la France qui ne s'aime pas, donc comment peut-elle apprendre aux gens à l'aimer ? Dans ces cas-là, moi je suis d'accord avec vous. En ce qui concerne la politique de la ville et les propositions faites par Jean-Louis Borloo avant-hier, ça fait 25 ans que je suis la politique, on a parfois un peu l'impression d'arroser le sable parce qu'il y a beaucoup de milliards qui sont déversés et ça n'avance pas
Mais
beaucoup.
Mais vous vous souvenez quand Jean-Louis Borloo avait voulu apporter son concours à justement travailler sur les banlieues et que Emmanuel Macron l'avait renvoyé dans les cordes en lui disant « Vous n'allez quand même pas demander à deux mâles blancs de s'occuper de... » C'était une chose absolument incompréhensible de sa part.
Bah c'est l'aspect multiculturel d'Emmanuel Macron. Qui, au départ, je pense qu'Emmanuel Macron a une vision anglo-saxonne de la société.
Je pense surtout que c'était une blague et que c'est une erreur, parce que quand tu es président de la République, tu ne fais pas de blague parce que les gens prennent tout au premier degré.
Mais et je pense qu'il a évolué d'une vision multiculturelle qu'il n'assumait pas, mais qu'il...
Implicite,
à une vision beaucoup plus républicaine. Et il le dit d'ailleurs dans la conférence de presse hier, il prend une question, il dit heureusement que les gens évoluent. Et moi, sur ces sujets-là, j'ai évolué. Alors après, il y a la question, est-ce qu'il fallait une nouvelle loi ? Parce que la première loi sur le séparatisme, on pourra dire que le séparatisme premier, c'est la burqa. Je ne sais pas si cette loi est appliquée. Quand on demande aux policiers, la réponse n'est jamais la même. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par appliquer les lois existantes avant d'en faire de nouvelles ?
Alors, Catherine Ney va être très contente parce qu'on va parler d'un vrai séparatisme, au sens exact du terme, à savoir, on va parler notamment, rassurez-vous, à savoir le Haut-Karabakh, dans lequel le conflit s'étend, et au-delà de la politique étrangère de Macron, sur laquelle il a été là aussi très actif cette semaine, et on va pas se demander si est-ce que ce sont des mots, paroles, et pas plus, et est-ce que, même si c'était ça, est-ce que les mots comptent ou pas ? Vraie question, 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Le conflit est au Karabakh. Eh bien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine appellent ensemble à l'arrêt des combats. Le groupe de Minsk qui réunit États-Unis, Russie, France, c'est assez prestigieux pour la France, se mobilise. Liban, le président de la République était intervenu, il est allé à Beyrouth, il avait même fixé un calendrier, des objectifs. Les uns disaient c'est un colonisateur qui revient, les autres disaient c'est un homme courageux qui nous aide à essayer de régler la crise. Et sur le Liban, bah tiens, écoutez ce qu'il a dit dimanche sur le Liban.
Je ne peux que regretter que les plus hautes autorités du Liban se contentent de constater l'échec en ces temps de responsabilité historique. Je décide donc de prendre acte de cette trahison collective et du refus des responsables libanais de s'engager de bonne foi dans le contrat que la France leur a proposé le 1er septembre dernier. Ils en portent l'entière responsabilité. Elle sera lourde et ils devront en répondre devant le peuple libanais. J'ai honte. J'ai honte pour vos dirigeants.
Ça fait quand même très 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 longtemps qu'on n'a pas entendu un chef de l'État tenir des propos aussi peu langue de bois, aussi peu diplomatique et aussi véhément à l'encontre de dirigeants d'un autre pays, Vincent Trémollet de Villers.
Oui, il avait pris une initiative qui était pas simplement symbolique ou verbale, qui était politique, qui était même physique, puisqu'il s'est rendu plusieurs fois là-bas. Il a échoué. A-t-il eu raison de dire ce mot de honte en langage diplomatique? C'est peut-être un peu outré. En observateur, moi, ça ne m'a pas choqué. Et il le fait sur d'autres sujets. Il s'en est pris. Il en a appelé à l'OTAN, là, au sujet du conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan et du rôle des Turcs dedans. Alors, pour le moment, ce n'est pas suivi des faits. C'est ça qui est très mystérieux dans la pratique diplomatique d'Emmanuel Macron ces dernières semaines. C'est qu'il a des déclarations très fortes, vraiment très fortes, avec des conséquences énormes, parce qu'on appelait à l'OTAN contre la Turquie, ça n'est pas rien. Et qui, pour le moment... reste en tout cas dans ce que nous voyons nous, peut-être pas dans les secrets des ambassades, à l'état de déclaration verbale, mais on ne peut pas lui reprocher de porter une voix européenne qui sinon est tout à fait atone, je pense aussi aux tensions entre la Grèce et la Turquie.
Catherine Ney.
Oui, c'est le mérite de ses interventions un peu brutales, c'est qu'il est, il incarne aujourd'hui la voix en Europe, parce que ce n'est pas Angela Merkel et il n'y a personne qui monte au créneau sauf lui. Moi, je trouve que l'ultimatum qu'il donne au Liban, il ne pensait pas qu'un gouvernement, surtout la complexité qu'est la politique libanaise, il allait avoir des résultats. Il n'a aucun résultat, il est allé trop fort. Hein, quand, nous aussi, on peut prendre du temps quand il faut remplacer Collomb par Castaner, on met 3 mois. Bon, donc, ce n'est pas étonnant qu'un pays aussi compliqué mette du temps aussi à trouver un accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ose dire des choses, par exemple, qui gênent beaucoup en Haut-Karabakh, qui gênent la Turquie, en disant, mais vous envoyez des miliciens syriens, vous les payez,
des djihadistes
et tout ça. Donc, et c'est vrai, et Poutine le soutient. En revanche, pour la Biélorussie, alors que vraiment, Poutine... déteste Loukachenko, il ne veut pas qu'il se mêle de cette histoire. Et puis, il faut dire, est-ce que c'est pour les Européens ? Est-ce que c'est très... est-ce que parler de la Biélorussie, est-ce que c'est très, très, très bien de le faire ? Parce que, vous savez, on va... La Biélorussie est un tampon entre l'Europe et la Russie. Depuis qu'il y a des sanctions à cause de l'Ukraine, eh bien, on peut exporter, envoyer les choses, les produits en Biélorussie, et après, c'est dispatché en Russie.
Donc, c'est une main. Voilà. Permettez-moi de revenir à notre sujet avec la question posée plus directement. Quand on n'a que les mots, et dans certains cas, on n'a que les mots, est-ce qu'il faut quand même les prononcer ? Ou est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est un aveu ? Est-ce que c'est une nécessité à la fois de courage et d'intelligence collective, comme il dirait, ou est-ce qu'il vaut mieux pas parce que c'est un signe d'impuissance ?
Il ne faut pas trop en user, mais on a beaucoup entendu des esprits fins dire on n'a que les mots, la diplomatie française n'a que les mots. Et moi, j'ai un souvenir, un moment très précis qui est 2003, où personne ne croyait que Dominique de Villepin prononcerait les mots dans l'enceinte de l'ONU. Et par ces mots, il a réussi à faire basculer en notre faveur un certain nombre de pays et à réveiller chez les Français qui l'écoutaient une fierté qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Donc, c'est une question de dosage. Il est évident que si on est sur tous les terrains comme Tintin, il y a un moment où la parole publique s'use. Mais là, quand on en appelle à l'OTAN contre la Turquie, on fait son travail et on fait la preuve de ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans un entretien qui avait été considéré comme un peu maladroit. L'OTAN est en état de mort cérébrale puisque plusieurs membres sont à deux doigts de s'affronter et que pour le moment, il ne se passe rien.
Et puis les mots, parfois...
Toujours les mots, encore des mots. Oui.
Vive le Québec libre !
Oui, mais c'est vrai, mais les Français, enfin en tous les cas, il y a des gens et des pays qui sont très contents en Europe que
au moins la France est une voix.
Et puis les mots, c'est un de nos talents.
Oui.
Bon, alors, s'il y a une bonne et mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas parlé d'élection présidentielle. Alors, je demande à Nicolas Dupont-Aignan de nous excuser, parce qu'en effet, il s'est déclaré cette semaine. Je demande à Anne Hidalgo de nous excuser, parce qu'en effet, elle s'est pré-déclarée. Je demande à Xavier Bertrand de nous excuser, parce qu'il nous rappelle aussi régulièrement qu'il peut, qu'il est présent. Et finalement, je ne demande pas à François Barrin de nous excuser, puisqu'il va bientôt nous dire enfin qu'il n'y va pas. Et nous, à Mediapolis, on aura d'autres occasions d'en reparler. En attendant, la chanson. Évidemment, la chanson. C'est Jean-Luc Arblade qui l'a choisi. Enfin, il a quand même la gentillesse de me consulter, ce qui vous a d'ailleurs évité une chanson de Sheila un petit peu nulle. Et à la place, vous avez une chanson de François Morel qui est à la fois pour évoquer le débat Biden-Trump et pour évoquer les décisions dont on n'a pas parlé, parce qu'on peut parler de tout, d'interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants. C'est donc Le Cirque, François Morel, 2006.
Les cuillères et folles d'amour pour un jongleur doux et charmant qui ne remarque pas sa cour et jongle avec ses sentiments. Le jongleur est en pamoison devant une acrobate à corte qui lui fait perdre la raison mais ne lui ouvre pas sa porte. L'acrobate a une passion pour les yeux d'un illusionniste dont le cœur est à double fond. Son indifférence l'attriste, le magicien perd ses moyens en voyant là-haut sur son fil une funambule à l'air hautain, un ange, un elfe de profil. La funambule ne descend qu'à cause du dresseur de lion qui ne lui porte ses vexants aucune marque d'attention. Le dresseur de lion est tout chose car il aime une femme à barbe qu'il s'acharne à couvrir de roses, l'orgueilleuse reste de marbre. Devant un avaleur de sabre, la femme à barbe est frénétique. Elle s'approche et lui se cabre, il ose pas trop lui dire qu'elle pique. L'avaleur de sabre soupire quand il aperçoit l'écuyère. Il sent sa flamberge durcir, elle n'en a pas grand chose à faire. La ronde sous le chapiteau fait que chacun est amoureux. Vous avouerez que c'est ballot, en même temps que malheureux. Heureusement, il y a Fredo, pas vraiment beau, pas un tombeur. Le gars qui monte le chapiteau, mais un fameux consolateur.
Merci à François Morel, mes excuses à Sheila. Félicitations à Jean-Luc Rablat, notre réalisateur. À Capucine Patouillet qui a préparé l'émission. À Catherine Ney qui est toujours aussi vive et piquante. À Vincent Trémollet de Villers, un de mes invités favoris. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr.